Oui, alors partons maintenant pour une présidentielle au Salvador. Il y a eu la présidentielle au Mexique et la promesse d'un renouveau avec Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO. Celle du Brésil, qui a beaucoup fait parler d'elle avec l'arrivée au pouvoir du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ou celle de République démocratique du Congo, qui s'est déroulée dans un relatif chaos. Mais il y a aussi eu, il y a quelques jours, une élection présidentielle dont vous avez peut-être un peu moins entendu parler. Elle a eu lieu au Salvador. Alors partons pour un voyage express dans ce petit pays d'Amérique centrale pour comprendre les enjeux d'une élection plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors je vais d'abord vous rappeler les faits, il s'est passé quoi alors dimanche dernier ? Eh bien, Nayib Bukele, candidat anti-système de 37 ans seulement, a été élu président du Salvador au premier tour avec 53% des voix. Il a promis de lutter contre la corruption et l'influence des gangs, d'éradiquer la misère et de développer son pays grâce à la création d'une filière touristique basée sur le surf. Alors, qui est le nouveau président du Salvador ? Décryptage express.
Alors, est-ce qu'on commencerait pas d'abord par parler du Salvador, tiens ?
Alors, bonne idée en effet pour saisir les enjeux de l'élection et comprendre le contexte. Le Salvador, c'est ce pays d'Amérique centrale le plus densément peuplé du continent américain. D'abord peuplée par des ethnies amérindiennes, la région est ensuite colonisée par les Espagnols, qui mettent notamment en place l'exportation de cacao et fondent les grandes villes du pays, dont la capitale, San Salvador. La région est ensuite annexée à l'Empire mexicain, mais lorsque cet empire mexicain s'effondre, elle proclame son indépendance et le Salvador, après avoir été membre de la République fédérale d'Amérique centrale, devient en 1841 République indépendante. Le 19e siècle est ensuite celui de l'introduction du café, qui fait naître une oligarchie dominante, et celui des luttes entre conservateurs et libéraux, et également contre les autres pays d'Amérique centrale. Dernier acte, l'autoritarisme et la politique fascisante du général Hernández Martínez, qui réprimera violemment la révolte paysanne qui éclate après la crise du café. Après 1944, les gouvernements militaires anticommunistes se succèdent et plusieurs guérillas se forment en réponse, alors que l'autoritarisme des militaires, qui empêche toute démocratisation dans un pays marqué par des inégalités sociales criantes et une grande pauvreté, fait beaucoup parler la communauté internationale. Et enfin, dernièrement, de 1980 à 1992, le Salvador a été déchiré par une guerre civile sanglante opposant l'extrême droite, représentée par l'ARENA, à une guérilla marxiste, le FMLN.
Et du coup, maintenant, on en est où ?
Eh bien, si le pays est connu pour ses montagnes, ses volcans et ses spots de surf, il l'est aussi pour sa pauvreté et ses problèmes de misère et de corruption. Si on faisait une brève radiographie du pays, ça donnerait ça. D'abord, une grande pauvreté, avec notamment 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ensuite, des problèmes de corruption, les trois derniers présidents ayant été poursuivis pour détournement de fonds. Et enfin, l'insécurité et le problème des gangs. Le pays, en effet, est confronté à la violence des maras, ces gangs qui contrôlent les trafics de drogue, et le taux d'homicide au Salvador est un des plus élevés du monde, avec 51 homicides pour 100 000 habitants. Ces problèmes pourraient d'ailleurs expliquer l'ampleur du phénomène d'émigration, puisqu'en effet, les Salvadoriens sont la deuxième nationalité la plus présente dans les caravanes de migrants qui partent d'Amérique centrale pour les États-Unis.
Pour surmonter ces défis, on a donc un jeune président d'origine palestinienne de 37 ans seulement.
Exactement. Identité, Nayib Bukele, fils d'un commerçant originaire de Palestine. Formation politique, membre du Ghana, parti de centre-droite, dont le fondateur est d'ailleurs accusé de détournement de fonds publics, et ancien militant du FMLN, dont il a été exclu pour machisme, il aurait insulté une conseillère municipale avec violence. Expérience, ancien maire de la capitale, San Salvador, qu'il a contribué à sécuriser et à mettre en valeur. Promesse, lutter contre trois fléaux, la corruption, la misère et l'insécurité.
Et alors, quels sont les enjeux de cette présidence, Marie ?
Eh bien déjà, cette élection ouvre une période nouvelle pour le pays, puisque pour la première fois, il n'est pas gouverné par une alliance et une alternance entre l'ex-guérilla FMLN et l'ARENA, c'est-à-dire le parti de droite. Ensuite, Bukele va devoir composer avec une situation complexe pour relever ses promesses. Le système pénitentiaire est débordé, avec un taux d'occupation carcérale de 330%, et suite à la décision de Trump de mettre fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient les migrants salvadoriens, certains habitants cherchent à rentrer au pays, un pays dont l'économie reste, on l'a vu, très précaire. Et enfin, Nayib Bukele devra composer avec une assemblée bipartite, dans laquelle son parti dispose de peu de sièges et qui reste dominé par l'ARENA, le parti de droite. Apprécié de la jeunesse, maître de la communication sur les réseaux et désormais familier d'une rhétorique anticorruption dont il a fait le centre de sa campagne, l'Hirondelle, comme on le surnomme en référence au logo de son parti, le Ghana, doit maintenant prouver qu'elle est capable d'accomplir le projet qu'elle a fait sien. Nous n'allons pas permettre que ce soit toujours les mêmes qui nous gouvernent. Nous allons écrire l'histoire, rien que ça.
Eh bien, on suivra cette histoire en train de s'écrire. Merci beaucoup, Marie, pour ce billet d'ailleurs.